Merci à l'équipe de louanges. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Père éternel, merci pour tes bontés. Père, merci d'être présent au milieu de nous. En esprit, Seigneur, et dans nos cœurs, tu es ici, au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu habites les louanges de ton peuple, et à cause de l'œuvre de Christ, tu habites nos cœurs, Seigneur. Père, j'enseigne ce matin et on adresse un sujet, Seigneur, dans lequel j'ai tellement, tellement, tellement grandi, tu le sais. L'Église le sait, Seigneur. J'essaie, dans la mesure du possible, de ne pas jouer de jeu, Seigneur, avec toi ni avec ton peuple, Seigneur. J'ai tellement à apprendre, Père, à grandir dans ma vie de prière. Et en même temps, Père, tu me fais vivre tellement de belles choses avec toi, un désir de plus en plus vivant, fort, profond, de me tourner vers toi constamment, Seigneur, tel que je suis, sans tout préparer, Seigneur, mais simplement te faire connaître mes besoins comme un enfant à son père, Seigneur. Père, j'aimerais te prier pour tous ceux et celles dans cette assemblée qui ne te parlent plus. Et il y en a certainement quelques-uns, Seigneur. Ils ne te parlent plus parce que se sont éloignés de toi, Seigneur. Ne te parle plus parce qu'ils doutent de ton amour, doutent de ta fidélité, doutent de ta puissance, doutent de ta réalité peut-être, Seigneur. Je te prie de toucher leur cœur ce matin. Père, je te prie pour ceux qui commencent à te prier, qui ne sont pas certains même de ton existence, de ta réalité, de ta présence, et qui te demandent de te manifester. Entends-les, Seigneur, t'as donné une belle promesse dans les évangiles, Seigneur, à celui qui cherche, il sera donné de trouver, Seigneur, tu te manifesteras, viens le faire, Seigneur. Ce matin, à travers cette prédication, au cours des prochains jours, viens te manifester, Père. Tu sais comme nous sommes faibles dans notre foi et nous avons besoin que tu viennes fortifier, alimenter, nourrir notre foi, Seigneur. Par ta parole, mais Seigneur, aussi en répondant à nos prières, en te manifestant dans les circonstances de nos vies, Seigneur. On a besoin de ces moments où nous voyons ce Dieu souverain se manifester, Seigneur. Je te prie, Père, pour ceux qui ne te prient pas souvent parce qu'ils sont, ils sont coincés avec cette image de la prière qui est une pratique qui est quelque chose de réservé pour une élite, pour ceux qui sont des gens de prière, Seigneur. C'est tellement à l'encontre de ce que tu nous enseignes sur la prière dans ta parole, Père. Viens faire tomber ces carcans dans leur cœur qui les empêchent d'aller à toi constamment jour après jour. Je te prie, Père, pour ceux qui ne te prient pas souvent parce qu'ils ont quelque chose contre toi. Parce qu'ils en veulent à leur Père d'une décision que tu as prise pour leur vie, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui, comme moi, sont là disponibles, désirent apprendre, mais on a besoin, Seigneur Jésus, que tu nous apprennes à prier cette année, en Église, à persévérer. Je te rends grâce pour les modèles que tu nous as donnés, Seigneur, à travers cette Église. J'ai mentionné Mme Martin, Seigneur, mais plus près de moi, tu m'as donné ma mère, Seigneur, comme modèle de femme de prière. Et des dizaines de personnes dans cette Église, Seigneur, sont des modèles pour nous. Pas tellement par la manière qu'ils prient, mais par leur foi en toi, par leur persévérance à crier à toi, à se tourner vers toi, Seigneur. Merci pour nos sœurs qui persévèrent avec ce groupe de prière les dimanches matins depuis quelques années maintenant, Seigneur. Garde cette flamme bien vive, que jamais, Seigneur, elle ne s'éteigne et que les hommes soient au rendez-vous. Viens disposer nos cœurs à la prière, Père. Père, dans toutes ces choses que je te dis, c'est que nous avons besoin de toi. Notre vie, Seigneur, notre vie spirituelle, c'est toi qui nous la donnes. Viens nous rencontrer ce matin. Et dans ta grâce, sois avec moi, je t'en prie. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je le mentionnais la semaine dernière, tout le mois de janvier, on veut le consacrer à se préparer à avancer dans notre année, préparer notre cœur, disposer notre cœur. Et voilà deux semaines, le sujet que j'ai adressé avec vous, c'est simplement de prendre le temps, comme le peuple d'Israël, à un moment charnière de son cheminement. Josué a lancé le défi à l'Assemblée d'Israël et a dit « Faites un choix. Faites un choix et si vous avez fait un choix pour l'Éternel, examinez vos vies. Faites du ménage. » Et l'exhortation que j'avais pour vous il y a deux semaines, bien c'était précisément ça. Est-ce qu'il y a des idoles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues prendre la place de Dieu dans votre cœur dans l'année 2011? Et s'il y en a, faites un choix, prenez une décision et passez à l'action. Faire du ménage, ça veut dire sortir le balai. Des fois, ça veut dire sortir la masse, se transformer en iconoclaste, aller faire éclater ces idoles, ces icônes qui sont venues s'installer dans nos vies. Mais ça demande de passer à l'action. Il y a des choses qui ne sortent pas de nos vies tant qu'on ne prend pas une décision. Les idoles, c'est pas quelque chose qui sort par lui-même, d'accord? C'est quelque chose qu'on chérit, qu'on aime, qu'on dorlote, qu'on installe confortablement, souvent dans des endroits un petit peu cachés, un peu secrètes. Et ça prend une décision pour sortir ça de notre vie. La semaine dernière, l'encouragement que je voulais vous donner, c'est que cette année, on puisse s'appliquer à grandir dans notre amour. Toute la loi et les prophètes, tout ce que l'Ancien Testament enseigne, et je peux dire tout ce que le Nouveau Testament enseigne, repose sur ce principe d'aimer. Et donc, mon désir pour toute cette assemblée, c'est qu'en 2012, nous aimions plus, nous aimions beaucoup, que vous puissiez aimer comme vous n'avez jamais aimé jusqu'à présent dans votre vie. Et 2013, ça sera plus encore. Aimer Dieu davantage et aimer notre prochain davantage. Et je ne sais pas si vous avez eu le « guts » ou comme on dit en québécois, les « tripes » de relever le défi que je vous ai lancé la semaine prochaine. Mais rappelez-vous, je vous ai encouragé à identifier un domaine précis. Quant au premier commandement, comment est-ce que Dieu vous invite à grandir à l'égard du premier commandement d'une manière concrète? Dans votre amour pour Dieu, est-ce que c'est dans votre temps avec le Seigneur? Est-ce que c'est justement de chasser une idole de votre vie pour dire « Seigneur, il y a cette idole qui est là dans ma vie depuis des années et j'y renonce, je la chasse de ma vie parce que tu es mon Dieu. » Et 2012 va être consacré à m'assurer qu'elle ne revienne pas s'infiltrer, rentrer par la porte en arrière. Exemple. Mais aussi un défi d'identifier un domaine, une manière concrète, précise, par laquelle vous allez pouvoir grandir dans votre amour pour votre prochain. Les exemples sont infinis. Autant qu'il y a de personnes autour de vous, autant qu'il y a de possibilités de grandir concrètement. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans l'église, ça peut être à l'égard de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ça peut être de vous consacrer davantage à cheminer dans votre service, ça peut être de vous impliquer dans un petit groupe en mission, ça peut être de conduire votre petit groupe à servir. Ne pas se satisfaire uniquement des réunions de prière, des temps dans la parole, ce qui est excellent, mais c'est beaucoup plus que ça la vie chrétienne. Et ressembler à Christ, c'est beaucoup plus que Kumbaya Seigneur autour du feu, n'est-ce pas? Pas mal plus que ça. Alors, je ne sais pas si vous avez eu les tripes d'identifier, d'être concret. Quand on veut avancer, quand on veut changer, ça prend des décisions. Il faut identifier des choses, il faut les placer devant Dieu. Et si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à le faire cette semaine. Vous allez être bénis de prendre des décisions claires en identifiant des domaines précis où vous voulez grandir, accrocher votre conjoint, accrocher un frère, accrocher un ami et dites-lui, j'ai besoin d'un partenaire de prière cette année, je m'engage devant toi, devant le Seigneur à travailler sur ça, invitez-le à vous questionner, à demander des questions concrètes du genre, comment est-ce que tu vas t'y prendre, qu'est-ce que tu vas faire, quelle action Dieu te demande de prendre, est-ce que c'est une conviction qui est là depuis longtemps, comment je peux prier pour toi? Qu'est-ce que tu me permets de faire pour te tenir redevable, t'encourager? Est-ce que tu m'invites à prendre des nouvelles une fois par semaine? Je l'ai partagé souvent à l'Assemblée. J'en ai plein de chiens de garde autour de moi. Puis c'est mes meilleurs amis. Puis ils me donnent un coup de fil, puis ils m'appellent, puis ils m'envoient un courriel. Puis ils me disent, puis Yannick, est-ce qu'il y a une autre femme qui est rentrée dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une femme qui est venue prendre la place d'Esther dans ton cœur? Moi, j'ai des amis qui font ça 3-4 fois par année avec moi. C'est précieux, ça. Esther, elle aime ça. Mais le Seigneur aime ça, puis moi j'aime ça. Parce que j'ai le cœur en paix. J'ai le cœur ferme, solide. Alors je vous encourage à être concret, à passer à l'action. À la fin de la semaine dernière, je vous ai dit, comme Église, comme Assemblée, voici comment nous allons chercher à grandir à l'égard du premier commandement et du second commandement. D'accord? Alors je vous encourage à regarder personnellement, peut-être que ce sera en famille, vous allez décider des domaines précis, mais comme Assemblée, comment est-ce qu'on va chercher à grandir dans ces deux domaines-là? Bien, à l'égard du premier commandement, nous allons continuer en 2012 avec plus de vigueur encore à nous appliquer, à chercher à grandir dans notre vie de prière. Pour ce qui est du premier commandement. Pour ce qui est du second commandement, nous allons chercher en 2012 à grandir dans notre évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le conseil des anciens, appuyé des leaders de l'Église, on va chercher à vous conduire dans cette direction sur ces deux domaines. Grandir dans notre vie de prière pour manifester, exprimer à Dieu que nous voulons l'aimer davantage en 2012. Grandir dans notre évangélisation pour manifester devant Dieu notre amour pour notre prochain de manière concrète et annoncer la bonne nouvelle du message de l'Évangile en 2012. C'est de cette manière-là que nous allons chercher à grandir. Alors ce matin, je vais vous parler de prière. Ce matin, on parle de prière. La semaine prochaine, on va parler d'évangélisation. Puis comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la semaine prochaine, on parle d'évangélisation en priant. Donc, on va être concret. On va avoir un temps de prière particulier la semaine prochaine, justement, pour travailler sur notre évangélisation et grandir à cet égard-là et demander au Seigneur de nous faire grandir. Ce matin, on parle de prière. Ce matin, je ne vais pas vous parler des différents types de prière. D'accord? On ne va pas être tellement dans le, comme on dit en français, how to, comment prier ou quelles sont les différentes formes de prière qu'on trouve dans les Écritures. On pourrait parler de louange, on pourrait parler d'intercession, on pourrait parler de confession, on pourrait parler d'action de grâce. Ce sont toutes différentes formes de prière que nous sommes appelés à faire. Je ne vais pas parler de ça ce matin. Ce matin, je ne vous livrerai pas un grand plan de match sur voici toutes les manières qu'on va prendre pour grandir ensemble dans notre vie de prière cette année. Bien que ces choses-là sont en train de se structurer, on va vous les partager. Ce matin, j'aimerais placer dans notre esprit, pour toute l'Église, placer dans notre esprit un mot, une idée qui va pouvoir nous inspirer pendant toute l'année 2012 sur la prière. Un mot qui, selon moi, et je pense que ça tient la route, mon affaire, selon moi, résume le mieux tout ce que la Bible enseigne sur la prière et particulièrement ce que le Nouveau Testament enseigne sur la prière. Et ce mot-là, c'est « demander ». Quand vous pensez à la prière à l'intérieur de toutes les Écritures, je crois que le mot qui résume le mieux ce qu'est la prière, c'est le mot « demander ». Et je sais qu'il y a des gens qui pensent à des textes, ils disent « non, c'est relation ». Non, c'est adoration, c'est Dieu. Faut pas commencer par demander, il faut commencer par regarder à Dieu. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais si vous êtes attentif et vous allez voir les passages dans le Nouveau Testament qui nous enseignent sur la prière, la constante, l'élément qui revient le plus souvent à l'intérieur, spécialement du Nouveau Testament, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi, mais spécialement à l'intérieur du Nouveau Testament, je crois que le mot qui résume le mieux ce que le Nouveau Testament enseigne sur la prière, c'est simplement le mot « demander ». Demander à Dieu. Demander. Prier. Demander à Dieu de faire des choses, de bouger. Il y a d'autres questions qui sont importantes concernant la prière. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce mot-là résume tout ce que la Bible enseigne sur la prière. Vous avez des passages dans Jacques qui vous viennent à l'esprit, des passages dans Jean qui vous viennent à l'esprit. Il y a plein de questions importantes qui concernent la prière. Comment prier? Pourquoi prier? Les Écritures, le Nouveau Testament nous parle de ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait prier? Qu'est-ce que je devrais demander à Dieu? Est-ce que je demande à Dieu nécessairement de gagner à 6,49? Est-ce que Dieu est comme « wow, hey, j'avais pas pensé à celle-là ». Pourquoi est-ce qu'on devrait prier? C'est une question importante. Est-ce que ma prière est selon la volonté de Dieu? C'est une question super importante. Est-ce que mes motifs sont saints? Est-ce que Dieu va répondre? Si Dieu n'est pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais le savoir? Je suis en train de prier, Dieu n'est pas d'accord. Puis, donc, est-ce que c'est juste par ses silences qu'il va me le signifier? Et si Dieu décide de me faire attendre, combien de temps je vais prier? Combien d'années je vais prier? Combien de décennies je vais prier? Est-ce que j'ai suffisamment de foi pour avoir le droit de demander? Voyez-vous, ce sont des questions importantes et comprendre ce que le Nouveau Testament enseigne à l'égard de la prière, ce que la Bible enseigne à l'égard de la prière, pour grandir dans notre vie de prière, nous demande de répondre à ces questions-là. Et puis, vous pouvez penser aussi à des passages. J'ai mentionné tout à l'heure Jacques 1, qui nous parle de l'importance de la foi dans la prière. Tu pries, mais si tu ne crois pas, wow! Jacques 4, qui nous dit que parfois nous sommes en train de prier, mais on n'est pas exaucé parce que, en réalité, on est en train de prier pour répondre à nos propres passions, assouvir des désirs égoïstes. Et Dieu décide de pas écouter ces prières-là. Jacques 4. Jean 15, Jésus nous dit, si vous demandez et que vous demeurez en moi, vous allez être exaucé. Grosse question, ça veut dire quoi, demeurer en lui? Parce que la promesse est énorme et grosse comme ça. Ça veut dire quoi, demeurer en Christ, demeurer en Jésus-Christ pour pouvoir voir cette promesse-là remplie? Le Notre Père, évidemment. Jésus nous enseignait comment prier. Alors voyez-vous, il y a des passages qui nous viennent et ces passages-là sont importants pour pouvoir grandir éventuellement dans notre vie de prière. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là ne sont pas importantes. Elles sont importantes si je veux grandir dans ma vie de prière. Mais ce que je voudrais placer ce matin, dans notre esprit à l'égard de la prière et pour toute l'année. Et que ce soit un encouragement, que ce soit ça qui nous pousse à la prière d'abord et avant tout cette année, c'est un seul mot qui, selon moi, résume plus que tout ce que je vous ai dit là. Ce que la Bible nous enseigne sur la prière, c'est demander. 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 Je vous lis quelques passages rapidement. En fait, juste penser à la parabole que Jésus raconte dans Luc 18. Dans Luc 18, Jésus raconte une histoire. Vous vous rappelez la veuve avec le juge inique, si vous avez lu cette histoire? Jésus raconte cette histoire-là dans quel but? C'est quoi le but? C'est pour nous encourager à prier sans jamais se relâcher. Et l'histoire est assez spéciale parce que si vous essayez de placer les personnages... Bien, vous avez une veuve qui est là, puis qui a une cause juste, et puis elle va vers un juge qui est un tout croche, c'est un tordu, c'est un homme qui a souffert de collusion dans sa vie. Puis, donc, il est tout croche. Et puis, elle va vers lui, puis elle lui demande, « Défends ma cause, rends-moi justice, je suis dans le vrai, défends ma cause. » Cet homme-là est inique. Il n'est pas intéressé à faire justice. Peut-être qu'il a reçu un pot de vin pour ne pas donner justice à cette femme-là, on ne le sait pas. Mais aucun intérêt personnel à accorder à cette dame de rendre justice. Et Jésus nous donne cette histoire pour dire, oui, mais elle va le talonner tellement. Elle va tellement l'achaler. Elle ne le laissera pas aller tant et si bien qu'en fin de compte, il va dire, OK, donne-moi là ton papier, je vais le signer, puis je vais te débarrasser d'elle. Puis là, Jésus termine ce récit-là en nous disant, ben, vous pensez pas que si un juge peut faire ça dans la mesure où tu le talonnes, ton père, qui est bon, lui, va pas te répondre? Toute une comparaison. Mais ce qui sort de là, c'est demander. Persévérer, demander, allez-y. Continuez, demander. On n'est pas encore dans les « Oui, mais est-ce que j'ai bien demandé? Est-ce que j'ai le droit de demander? Est-ce que c'est la bonne requête? Est-ce que Dieu va répondre à ça? Est-ce que j'ai assez de foi? » Demandez. C'est ça la leçon ici. Quelques passages. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, simplement pour voir que ça vient aussi dans les lettres de Paul. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Sans cesse, priez, 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 demandez, continuez à prier. Philippiens 4, 4 à 7. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous toujours. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Constamment. Allez dans la prière, demandez. Allez demander à Dieu. Demandez-lui d'exaucer vos prières. Venez devant lui avec votre cœur ouvert. Venez simplement lui faire connaître vos besoins, ce qui se passe dans votre cœur. Venez lui demander constamment. Et je pense que ce que le Nouveau Testament nous enseigne, C'est que la première chose que nous devons réaliser si nous voulons grandir dans notre vie de prière, c'est que Dieu nous demande de venir à lui avec un cœur d'enfant. Dernièrement, j'étais en train de lire un livre qui nous parlait, par exemple, du fait que le chrétien dans le Nouveau Testament est présenté comme un serviteur, un esclave de Christ. Hein, vous avez, certains sont en train de lire le livre de John MacArthur, Slave ou esclave. C'est excellent, c'est vrai. Mais j'étais en train de lire, puis j'étais en train de réfléchir, puis je réfléchissais aux métaphores, aux images qui décrivent ce qu'est un chrétien dans le Nouveau Testament. Et clairement, à mes yeux, l'image qui revient le plus souvent, celle qui est la plus présente, c'est l'image de l'enfant. Si je veux grandir et apprendre à prier, je dois apprendre et accepter que Dieu me voit comme un enfant et que c'est avec un cœur d'enfant que je dois venir dans la prière. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, s'offrir en sacrifice afin que ceux qui croient en lui puissent devenir enfants de Dieu. Et voyez-vous, l'image qui revient constamment à l'intérieur du Nouveau Testament, celle qui est la plus fréquente pour définir ce qu'est un chrétien, c'est celle de cet enfant qui est en relation avec le Père. Et tout ce que Jésus est venu accomplir avait comme objectif de nous faire entrer dans sa famille, nous faire entrer dans cette relation avec son Père. Vous rappellerez la série qu'on a faite, Dieu le Père? C'est ça que je poursuivais comme objectif, de venir placer cette image. Quand vous pensez à votre relation avec Dieu, la première chose à laquelle je dois penser, c'est que je suis un enfant de Dieu. Et je dois constamment réapprendre, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire si Dieu est mon Père? Mais je crois que cette image-là est fondamentale pour pouvoir grandir dans notre vie de prière aussi. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament nous dit constamment « demander ». Parce que Dieu s'attend à ce qu'on vienne à lui avec un cœur d'enfant, avec la simplicité d'un cœur d'enfant. Puis ensuite, on va apprendre. Ensuite, on va grandir dans les pourquoi, les comment, les motifs, la foi, est-ce que j'ai assez de foi, est-ce que je suis en train de prier selon la volonté de Dieu. Mais la première chose que je dois déposer, c'est cette attitude dans mon cœur, attitude d'un cœur d'enfant qui a le droit de se tourner constamment vers son Père sans s'interroger à savoir est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Marc. On va aller ensemble dans Marc 10. Au verset 23, Marc 10, 23. Je suis en train de me poser des questions si je suis à la bonne place. Marc 10, 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Quand on annonce l'Évangile à des gens, puis on voit les gens se poser tellement de questions sur l'Évangile, puis des fois tellement compliquer les affaires, puis on a le goût de leur dire, regarde, je comprends qu'il y a beaucoup de questions, je comprends qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais si tu veux connaître Dieu, il faut que tu aies un cœur d'enfant. Puis après toutes les réponses que je vais t'avoir données, il va falloir que tu retombes dans cette posture, cet endroit où tu acceptes d'avoir un cœur d'enfant. Pour accepter qu'il y a des choses que tu ne saisiras pas, mais tu vas saisir l'amour de Dieu pour toi. Voyez-vous, nous savons que pour devenir chrétien, il faut avoir un cœur d'enfant. Parce qu'il reste des mystères, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a de la souffrance dans le monde, puis ce serait plus simple, il nous semble, de croire si on avait toutes les explications, puis on comprenait comment Dieu est en train de faire les choses, puis telle histoire qui est arrivée dans ma vie. Il me semble que ce serait plus simple si tu m'expliquais pourquoi tu as permis ça. Mais en définitive, pour devenir chrétien, à un certain moment donné, Il va falloir que tu aies un cœur d'enfant, puis simplement que tu décides de croire et être touché par l'amour du Père. Nous savons cela pour ce qui est de la conversion, pour ce qui est de devenir chrétien. Mais nous oublions que la prière commence aussi avec cette attitude toute simple d'avoir un cœur d'enfant qui vient vers son Père et qui demande à son Père de l'aider. Si vous voulez grandir cette année dans votre vie de prière, vous devez retrouver cette attitude-là, toute simple, d'un enfant qui dit « Père, je sais que tu m'aimes. Tu m'as donné la plus grande preuve que tu pouvais me donner. Ton fils est mort sur la croix pour moi. Je sais que tu m'aimes, Père. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. » Et si cette année, on peut commencer l'année simplement en prenant la décision d'aller constamment vers notre Père pour simplement ouvrir notre cœur. Vous savez, les enfants ne se compliquent pas tellement la vie lorsqu'ils viennent vers nous. Chez nous, on en a un des deux qui est plus têteux. Je vous laisse deviner c'est lequel, d'accord? On en a un des deux qui est plus têteux. Il demande n'importe quoi, n'importe quand. Puis il n'est même pas gêné. Et vous savez quoi? Il reçoit souvent. Puis des fois, je suis obligé d'expliquer à l'autre. Parce que l'autre me dit, « Ouais, mais pourquoi moi, j'en ai pas? » Et tu demandes pas. Il demande. Il n'y a comme pas de balise, il n'y a comme pas de... Comprenez? Il n'y a rien qui l'empêche. Il demande. « Non, mais tu comprends pas que tu viens d'avoir de quoi tantôt? » »« Oui, mais je demande. » Il demande comme un cœur d'enfant. Ce serait le fun. En plus de ça, il commence à apprendre à faire les petits yeux de chat. Là. Bon. Mais il y a plus souvent. Parce qu'il demande comme un enfant qui demande. Pour grandir dans notre vie de prière, pour nous approcher de Dieu, l'aimer davantage cette année comme Église, il faut accepter de retrouver ce cœur d'enfant qui n'essaie pas de tout bien placer les choses avant de venir. Un enfant, lorsqu'il demande, ne commence pas à se demander « mes motifs sont-ils purs? » Non, il veut! C'est sûr que c'est pur! Est-ce que papa a le goût d'entendre ma requête? Je sais qu'il arrive du travail, il est fatigué, il faudrait que j'attende tantôt. Non! Fais juste demander! Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons un Père. Nous avons un Père qui nous aime tendrement et qui s'attend à ce qu'on ait à lui constamment, sans arrêt, sans cesse. Maintenant, vous avez peut-être vécu des choses par rapport à la prière. Vous avez vécu des choses qui vous ont refroidi à l'égard de la prière. Parce que vous avez demandé des choses avec un cœur d'enfant, puis conséquemment, parce que Dieu a décidé de ne pas répondre comme vous le désiriez peut-être, ou de vous faire attendre, vous avez perdu ce cœur d'enfant dans la prière. Je vais vous raconter une histoire qui est un peu drôle, puis en même temps qui n'était pas drôle du tout à l'époque où ça s'est déroulé dans le cœur d'un enfant. Je vais vous raconter une histoire qui concerne ma fille Jade. D'accord? J'ai demandé la permission à Jade avant de le raconter. D'accord? Et vous allez voir que c'est drôle. On en rit aujourd'hui. Hier, lorsque j'ai dit « Jade, tu permets-tu que je raconte ça? » On en riait ensemble. Mais essayez de vous mettre dans la peau de cet enfant-là au moment où elle a vécu cela. C'était pas drôle du tout. Jade avait 4 ans. Je me souviens même plus pourquoi. Elle devait passer une prise de sang. Ah oui, c'est ça. En plus de ça, c'est de ma faute. Parce que j'ai la thalassémie. Il fallait voir si elle avait la thalassémie. Fait que, elle devait passer une prise de sang. Jade a toujours eu peur des aiguilles. Mais vraiment peur des aiguilles. Fait qu'à l'époque, Jean-Paul Gagné, qui est infirmier, mais qui pratiquait encore là, des prises de sang, tout ça dans le cadre de son travail, à l'époque, il y avait la possibilité de venir chez nous puis de nous rendre service. Alors, Jean-Paul est venu chez nous pour faire une prise de sang pour Jade. Il nous a dit, regardez, je le sais, là, ça, parce qu'on ne se voyait même pas se rendre à la clinique avec Jade, ça allait être l'hystérie totale. Et donc, Jean-Paul est venu. Ceux qui connaissaient Jean-Paul, je veux dire, tu veux que ce soit lui qui te pique, tu comprends? S'il y a quelqu'un qui doit te piquer, c'est Jean-Paul qui te pique, qui te parle, il est gentil, oui, c'est beau, tu sais. Non, je vous dis, ça s'est pas passé comme ça du tout. 4 ans, au moment où elle a saisi qu'on s'en venait avec une aiguille, puis qu'elle a vu cette affaire-là, Vous pensez que j'ai l'air des douces, hein, mais il y a une tigresse dans cette fille-là. Là. Terrible. Je vous dis, c'est terrible. Puis là, Jean-Paul, après comme avoir essayé de toutes les manières de la raisonner, puis tu sais, le bon infirmier qui essaie de bien faire les choses, il a dit non, il n'y arrivera pas. Il a dit, Yannick, il faut que tu tiennes. Et là, littéralement, là, je me suis assis. Elle s'est assise sur moi. J'ai passé une cuisse par-dessus ses jambes. J'ai mis mon bras autour de lui. J'ai mis l'autre bras comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Lorsqu'on a terminé, j'étais tout tremble. J'étais épuisé. Elle avait 4 ans. J'étais épuisé. Et tout le long, elle disait, « S'il vous plaît, Monsieur Gagné, s'il vous plaît, Monsieur Gagné, piquez-moi pas, Monsieur Gagné. » Elle pleurait, elle était hystérique. Bon, on peut en rire aujourd'hui. Maintenant, si je vous raconte ça, c'est parce que pour moi, la leçon est vraiment, 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 vraiment importante. Pour un instant, là, oubliez la scène qui est loufoque, là, qui est un peu drôle, là. Puis essayez de vous mettre dans la peau de ce petit enfant de 4 ans qui voit ses parents qui sont là, qui voit son papa qui est là et qui se prépare à laisser un monsieur lui planter une aiguille dans le bras. Et qui supplie ses parents. Je vous en supplie, non! 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 Mettez-vous dans sa tête, dans sa peau. On ne rira pas de ça dans 20 ans. C'est la fin du monde qui est en train de se produire. On veut me piquer avec une aiguille. Est-ce que sa prière était sincère? Est-ce que sa requête était sincère? Est-ce qu'il y avait vraiment une situation catastrophique qui s'en venait devant elle à ses yeux? C'était entier, c'était vrai. Puis son père qui est supposé de l'aimer, a non seulement permis que M. Gagné lui fasse du mal, mais l'a tenu pendant ce temps-là. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Jade m'aime encore. Jade sait que je l'aime. Elle est bonne, hein? Elle m'aime encore, elle sait que je l'aime. Elle doute pas de mon amour pour elle. Quelques heures après, on était en train de jouer ensemble. Elle doutait pas que je l'aimais, que je voulais prendre soin d'elle. Parce qu'elle avait un cœur d'enfant. Et même si dans cette requête, son père n'a pas répondu comme elle voulait, parce que son père savait ce qui était bon pour elle, son père savait que c'est ça qui devait se passer. Son père savait que cette souffrance-là ne pouvait pas être évitée. Elle était nécessaire. Mais Jade avait 4 ans. Jade était comme ces petits-enfants qui ont été conduits à Jésus. Lorsque Jésus a dit aux disciples, « Si vous n'avez pas un cœur comme eux, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Et quelques heures après, quelques minutes après, Jade était en train de jouer avec son papa et elle ne doutait pas jusqu'à ce jour que son père l'aime. Plusieurs d'entre vous, vous avez vécu des choses dans la prière et vous avez perdu votre cœur d'enfant. Parce que vous avez vécu un moment où, dans votre perspective à vous, c'était inadmissible le chemin par lequel Dieu voulait vous faire passer. Ce n'était pas des blagues pour vous. Ce n'était pas des blagues pour Jade à l'époque. C'est très sérieux ce qui se passait là. Son univers est en train de basculer parce qu'on s'apprêtait à lui faire du mal. Et son papa contribuait à tout ça. Certains d'entre vous, vous avez vécu des choses dans la prière et vous avez perdu votre cœur d'enfant. Et à ce moment-là, à quelque part dans votre cœur, vous avez décidé que votre Père ne prendrait pas soin de vous comme il l'avait promis. Votre Père céleste ne serait pas là pour vous comme il l'avait promis. Et voyez-vous, c'est juste dans la mesure où vous allez retrouver ce cœur d'enfant, comme ma petite fille qui, quelques minutes après, jouait avec moi, que vous allez pouvoir recommencer à demander à votre Père. On grandit, puis on perd ce cœur d'enfant. Puis là, progressivement, même dans notre foi chrétienne, on devient avec plein de filtres par rapport à la prière. On en vient à se dire qu'il faut que je sois assez spirituel pour approcher Dieu dans la prière. Mon frère me faisait remarquer hier, on discutait de la prière, puis il me faisait remarquer, tu sais, Yannick, la confession des péchés dans le Notre Père, elle arrive tard, hein? Fait que c'est pas vrai qu'il faut faire le ménage avant de venir voir Dieu. Tu viens à Dieu comme tu es. Puis tu commences en disant, papa, père. Mais voyez-vous, on grandit, on avance, puis j'aimais ce qu'un auteur, Paul Miller, a dit. Il a dit, la prière personnelle, c'est le dernier endroit dans notre vie où le légalisme reste incrusté. Parce qu'on va dans la prière, puis on a un paquet de filtres qui nous dit, pour que je puisse prier, pour que mon père puisse m'entendre, il faut qu'il y ait toute mon attention. Non, mais il a dit qu'il fallait qu'on soit comme des enfants. Avez-vous déjà remarqué combien de temps un enfant vous donne son attention? Vous avez 3-4 minutes, c'est parti, on s'en va ailleurs. Non, mais nous, non. Il faut que je sois capable de m'installer. Il ne faut pas que mon esprit aille ailleurs. J'essaierai de discuter avec mon fils Bastien. C'est dur à suivre. Ça s'en va partout, cette affaire-là. Mais c'est avec un cœur d'enfant qu'on doit venir. Ah non, mais ce n'est pas seulement qu'il faut que je sois là. C'est est-ce que je suis sincère? Seigneur, je me sens pas près de toi, alors je ne peux rien te demander parce que je sens pas que je suis sincère. Avez-vous vu déjà un enfant se poser ces questions-là? Il vient et il demande. Il s'approche avec un cœur d'enfant. Alors voyez-vous, comme je disais tout à l'heure, dans notre vision du salut, nous comprenons et on le chante. Hein? Vous vous rappelez ce vieux cantique « Tel que je suis ». Tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi, Seigneur. J'ai rien à t'offrir, je m'en viens. Je suis un tout croche. Peux-tu me sauver? Alors, on comprend qu'on entre dans l'éternité. On entre dans la vie éternelle. On entre dans la foi chrétienne sans avoir tout maîtrisé. Au contraire, il faut savoir qu'on est tout croche pour y arriver. Puis on arrive à la prière. Puis là, on a l'impression que pour la prière, il faut comme que ma vie chrétienne soit correcte pour que mon Père veuille m'entendre. Puis là, on se comporte comme des adultes ou des ados. On décide qu'on va faire les choses par nous-mêmes. Pendant que notre Père est juste là à côté puis qu'il nous regarde, puis il dit, tu voudrais-tu que je t'aide? Tu veux-tu venir m'en parler? Je suis là. Je voudrais t'accompagner. Mais non, on devient de plus en plus indépendant à l'égard de Dieu. On est en train de devenir des adultes qui se mettent plein de filtres parce que il faut que tout soit correct pour que j'aille vers toi. Tu serais pas fier de moi, papa, si je te disais ce que j'ai fait. Il sait déjà. Va donc pleurer dans ses bras. Quand Jésus a dit « Venez à moi », il dit « Venez à moi, vous qui êtes de bons chrétiens. » Hey, tous, vous ne pouvez pas prier cette semaine, Simon. Yeah! Non! Il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » Je m'en vais dans la prière, puis là, j'ai tous les problèmes de la journée, puis là, je commence à prier, puis là, piouf, ça vient de partir. Puis là, je dis, « Oh Seigneur, je suis désolé, j'ai pensé à ça. » Mais arrête donc, parle-y-en. Tu comprends? T'es accaparé par ça. Parle-lui-en. Apporte-lui tes soucis, apporte-lui tes fardeaux. « Venez à moi, vous qui avez l'esprit troublé, vous qui êtes accaparé, vous qui êtes préoccupé, vous qui ne vous sentez pas digne, venez à moi. » C'est ça que Jésus a dit. La prière se résume à un mot. Demander, demander, demander. Et au fur et à mesure qu'on va apprendre à demander, apprendre à aller vers notre Père, apprendre à chaque jour, à chaque instant dans la journée, simplement dire, Père, je file pas. Père, j'ai besoin que tu m'aides. Père, j'ai besoin que tu me diriges ici. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ci. Au fur et à mesure, on va pouvoir grandir dans cette relation avec notre Père. Et on va apprendre à prier de manière plus mature. Ma fille a grandi. La semaine dernière, il fallait qu'elle ait une prise de sang. Monsieur Gagné n'est pas venu à la maison. Papa n'a pas eu besoin de s'asseoir sur elle. Sa prière avait évolué. Sa prière, c'était... Est-ce quelqu'un qui pourrait m'accompagner au CLC? Ça ne me tente pas d'y aller tout seul. C'est comme... J'aime pas encore ça, les aiguilles. Elle a compris que c'était un passage obligé. Elle a grandi. On va grandir ensemble. On va grandir dans notre vie de prière. On va apprendre à prier avec foi. On va apprendre à examiner si on est en train de demander des choses qui glorifient Dieu. On va apprendre à mettre de côté des désirs égoïstes, des passions. Mais jamais, jamais, jamais dans cet apprentissage-là, on ne doit devenir des pharisiens de la prière qui ont l'impression qu'on doit tout mettre en ordre dans notre vie pour pouvoir s'approcher de notre Père. Toujours. On doit garder cette simplicité d'un cœur d'enfant, des têteux qui s'en viennent vers Dieu et disent « Papa, il faut que je te parle parce que ça ne va pas. Papa, j'ai besoin de ci. Papa, j'ai besoin de ça. Papa! » Parce que ce que Christ est venu accomplir à la croix, c'est nous faire entrer dans cette famille afin que nous ayons un Père. Alors cette année, demandez à Dieu n'importe quoi. Venez comme vous êtes, venez tout croche. Demandez n'importe quoi. De toute façon, il les connaît, les désirs de votre cœur. Oh Seigneur, je te demande de m'aider à faire mon culte aujourd'hui, mais je vais rêver toute la journée à avoir un Ford Mustang. Je veux dire, il te voit toute la journée rêver à ton Mustang. Tu comprends-tu? Fait que parle-y, hein, puis tu verras ce qu'il va faire avec. Mais demandez en 2012. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, tu es un bon papa et nous voulons grandir cette année dans la prière. On veut t'aimer, Seigneur. Et Seigneur, je te confesse personnellement combien de fois j'essaie de faire les choses par moi-même. Loin de toi, Seigneur, j'essaie d'être indépendant parce que, je sais pas, je me dis, je peux pas venir comme ça devant toi, Seigneur. Et je commence à prier, puis la culpabilité embarque rapidement parce que je me trouve pas assez un bon prieur, assez spirituel, assez concentré sur toi. Mon esprit commence à divaguer par toutes sortes de préoccupations, Seigneur. Mais Père, je veux grandir et je veux garder, retrouver ce cœur d'enfant et simplement venir vers toi et te demander, Père. Te demander de prendre soin de moi aujourd'hui. Te demander de me donner du repos aujourd'hui. Te demander de pourvoir à mes besoins et puis te demander même, Seigneur, des fois des nananes dont j'ai le goût, Seigneur, des rêves que j'ai, te laisser me parler à travers tout ça, Seigneur. Pas passer mon temps à me censurer dans la prière, Seigneur. Je veux venir devant toi parce que tu es mon papa. Parce que tu es mon papa et tu m'attends. Parce que tu es là, tu es témoin de chaque instant de ma journée, chaque moment, tout ce qui se passe dans mon cœur. Tu es là et tu le vois, Père. Alors je veux venir, Seigneur, devant toi et te demander les choses les plus folles sans censure, et te laisser me transformer, te laisser m'enseigner, Seigneur. Père, je sais que parfois, tu vas me dire non, comme j'ai dit non à ma petite fille de 4 ans, Seigneur. Mais je renonce ce matin, par la foi, à te repousser, Seigneur. Je veux avoir ce cœur d'enfant que Jade avait, alors que quelques minutes plus tard, elle jouait avec son papa si cruel qui l'avait laissé souffrir comme ça, Seigneur. Je te prie, Père, de redonner ce cœur d'enfant à ceux qui l'ont perdu. Je prie, Seigneur, de les aider à réaliser que le salut, la grâce, ça se trouve simplement avec un cœur d'enfant où on croit dans cette aventure complètement folle où tu es venu mourir sur cette croix pour nos péchés, Seigneur. Et nous l'acceptons par la foi. Sans te voir, nous croyons dans la puissance de cet amour et de cette grâce manifestée à la croix, Seigneur. Alors redonne un cœur d'enfant à ceux qui ne te prient plus, à ceux qui ont pris une distance avec toi parce qu'ils doutent, Seigneur, de tes bontés. Redonne-leur un cœur d'enfant, Seigneur. Merci, Père, de nous aimer. C'est en Jésus que je te prie. Amen.